Vous écoutez RTL.
RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde. Marc-Olivier Fauché.
19h20 sur RTL, c'est l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec le conseiller en communication Gaspard Ganzer. Bonsoir Gaspard.
Bonsoir.
Avec la chef adjointe du service politique de Match. Bonsoir Virginie Leguet.
Bonsoir.
Avec le politologue, président du conseil et d'analyse, Roland Cayrol. Il manque des mots là-dedans. Hein.
Non, mais je veux bien dire le président de ce truc-là, si vous voulez.
Oui, il doit manquer des mots là-dedans. Bon, pas bien grave. Et Alain Diamel qui nous a rejoint.
Ça vous fait rire.
Je vous dire quoi, non, qu'il manque des mots dans ma feuille, certainement.
Qui est président lui-même.
Voilà, ce qui est déjà pas mal. C'est une manière un peu ludique, un peu nouvelle, un peu pédagogique de leur montrer qu'un grand débat n'est pas quelque chose d'ennuyeux, n'est pas quelque chose qui n'est pas fait pour eux. Marlène Schiappa justifie donc sa participation à l'émission spéciale de Cyril Hanouna sur C8 vendredi soir. Tous les deux animeront donc un grand débat avec des retraités, infirmiers, demandeurs d'emploi, commerçants, etc., etc., qui témoigneront de leur quotidien et les téléspectateurs pourront voter pour les 7 meilleures propositions. On l'a évoqué hier dans On refait le monde quand on a appris la nouvelle. On en débat un peu plus profondément ce soir. D'abord, sur les réseaux sociaux, mélange des genres ou pas?
Ah oui, ça coince.
Benoît Galeret, pardon, bonsoir.
Bonsoir. En fait, quand on est secrétaire d'État pour la grande cause du quinquennat, à savoir le droit des femmes, il vaut mieux éviter de cossonner un présentateur d'une émission qui banalise le viol conjugal, épinglé de multiples reprises par le CSA pour ses dérapages misogynes, attaque-lore et homophobe. Réveillez-moi, ce doit être un cauchemar, se désole Andrea. Rémi pense très sérieusement que Schiappa n'y voit aucun inconvénient parce qu'elle nourrit encore une fascination très générationnelle pour la télé. Ce genre d'émission, c'est sa culture, dit-elle. La secrétaire elle-même s'est défendue d'un tweet. En novembre, on nous disait faut parler à tout le monde, le gouvernement vit dans sa bulle. En décembre, votre grand débat national, ça va être de l'entre-soi. Et en janvier, on crie au scandale pour un atelier du grand débat avec les gens qui regardent Hanouna. Pas un scandale, juste ridicule, grotesque, clownesque, rétorque Sophie. C'est 700 000 personnes qui n'auraient peut-être pas pris part à ce débat d'une autre façon. Faut saluer un certain courage de Marlène Schiappa et pas voir le mal partout, défend Adrien. D'abord étonné, voire rebuté par ce format, je me disais pourquoi pas si ça marche. Je regarderai avec bienveillance, bravo d'oser, faites-nous sortir de nos zones de confort, lance même Xavier. La sénatrice Samia Ghali aussi écrit, ceux qui disqualifient cette initiative sont d'un mépris de classe et intellectuel petit bourgeois. Le grand débat a pour intérêt de donner la parole à tous. N'ayez pas peur, populaire n'est pas un gros mot. Alors, pensez que parler aux gens, c'est parler au public d'Hanouna. Il est là le mépris en fait, madame. Soupire Christophe pour finir.
Alors évidemment, cette participation de Marlène Schiappa a été validée par la communication du gouvernement. Vous auriez été dans vos fonctions antérieures, Gaspard Ganzer, à l'Élysée, vous auriez envoyé Marlène Schiappa sur C8 avec Cyril Hanouna pour prêcher la bonne parole.
Bah, je me dis pourquoi pas en fait, au risque de vous surprendre. Parce que je pense que pour s'adresser à tout le monde, il faut s'adresser à tous les médias. Et il ne faut pas regarder de haut telle ou telle émission ou tel animateur. D'autant plus que, c'est ça qui est intéressant... on sent qu'il y a une sorte de fascination de la Macronie pour Hanouna. On se souvient que le président avait répondu au téléphone en direct à Hanouna le jour de son anniversaire. Enfin, à l'époque, moi, ça m'avait, là, pour le coup, j'avais quand même halluciné quand j'étais jeune. Et que Schiappa n'est pas la première ministre à aller chez Hanouna, puisqu'il y a déjà eu Castaner, il y a déjà eu Majoubi. Donc, ils sont un peu abonnés. Donc, je vais vous dire la vérité, ça ne me surprend pas tellement. Et puis, c'est même en termes de base.
Vous dites pourquoi pas.
Oui, je me dis pourquoi pas. Ouais. Le président de la République. J'aurais moins senti quand même, mais bon, la secrétaire d'État, ça, je trouve que c'est pas mal. Hein.
En plus, c'est l'émission préférée d'Alain Duhamel, donc.
Je sens qu'Alain va être dithyrambique.
Alors, je n'irai pas jusque-là, mais en revanche, je trouve que Marlène Schiappa, au fond, son style personnel est très adaptable à ce genre d'émission. Je trouve qu'elle
tout comprendre dans ce que vous dites, Alain. Là. C'est ça le problème.
Enfin, moi, je comprends très bien.
C'est le principal que vous compreniez bien. Alors.
Mais on peut tout comprendre. Donc,
non, mais ce que je veux dire, c'est un, il faut quelqu'un de jeune. Deux, il faut quelqu'un de décontracté. Trois, il faut quelqu'un qui adore la lumière et correspond aux trois critères.
Voilà.
Ça vous paraît clair ?
Ça me paraît clair.
Merci.
Vous, Virginie, je vous ai vu à côté de Cyril Hanouna dans une émission de Touche pas à mon poste, donc vous n'allez pas critiquer.
Moi, je me dis, est-ce que tout est bon pour que ce débat soit accessible ? Est-ce qu'il faut vraiment il faut en passer par là ? Et est-ce que les Français ne peuvent pas se contenter de tout simplement y participer, y aller ? Je ne sais pas. Moi, je vois que le gouvernement se sent tenu de multiplier les initiatives, ce qui est aussi une façon de l'encadrer, ce qui est aussi une façon de le contrôler, ce qui est aussi une façon de faire en sorte que le débat...
Le contrôler, ça m'étonne qu'ils y arrivent. Hein.
Bah, d'une certaine façon, la présence d'Emmanuel Emmanuel Macron si récurrente dans tous les endroits. Alors là, j'ai vu qu'il y a des formats différents qui vont être inventés à chaque fois. Ouais. Mais n'empêche, il est là, il tient la parole, il tient ce qu'il veut dire, il défend ses points de vue à chaque fois. Je trouve qu'ils sont un peu trop présents et qu'il ferait mieux de laisser le débat vivre entre les Français, mais que le débat est d'abord entre les Français et pas entre Emmanuel Macron et les Français. Après, il sera toujours temps pour Emmanuel Macron d'en tirer les conclusions. Mais là, il multiplie, en dehors de lui-même, il multiplie les émissaires. Je trouve qu'il y a une mainmise qui est un petit peu trop voyante.
Moi, je trouve ça complètement paradoxal comme point de vue, naturellement tout à fait honorable.
Respectable. J'ai le droit d'être paradoxal, mon cher Alain, j'ai le droit.
Très, très honorable.
Mais l'idée de lui reprocher maintenant d'être trop présent dans le débat, alors qu'on lui a reproché pendant des mois et des mois d'être solitaire, coupé de tout, ne parlant pas aux Français, là, c'est exactement l'inverse. Quand il est interrogé, bien d'ailleurs, en général.
Par les maires, très bien.
Bah oui.
Là, c'est pour Emmanuel Macron.
On ne peut pas dire qu'il est coupé de la réalité.
J'ai pas dit qu'il était coupé de la réalité. J'ai dit qu'il était trop présent, ce qui n'est pas tout à fait pareil.
Marlène Schiappa, en tout cas, sera face à un panel de Français. Aux côtés de Cyril Hanouna, vous, Roland Kayrol.
Écoutez, moi je suis un peu comme Gaspard, c'est-à-dire que quand le président décrochait son téléphone pour féliciter Hanouna pour son anniversaire, je dois dire que ça ne m'avait pas beaucoup plu. Marlène Schiappa dans une émission...
C'était pas l'inverse ? C'était Hanouna qui a appelé Macron pour son anniversaire.
Non, c'était dans l'autre sens.
Ah bon, peut-être. Ah bon.
Et donc, Marlène Schiappa...
Ça prouve qu'on a un président très jeune.
Oui.
Ce qui est vrai.
C'était en effet l'objet du coup de fil, je crois. Marlène Schiappa, dans ce rôle-là et pour cette émission-là, je ne trouve pas ça anormal, à vrai dire. C'est une des rares ministres du gouvernement qui a fait preuve d'un talent tel qu'elle est aujourd'hui l'une des plus connues. Et souvent l'une des plus appréciées de l'électorat. C'est pas rien quand même d'être arrivée à ça alors qu'elle sortait vraiment d'aucune espèce d'expérience politique. Et elle sait bien pratiquer le mélange de genre. Moi je l'ai vue au théâtre un soir dans les monologues du Vagin et je l'avais trouvée formidable. D'ailleurs les trois femmes étaient formidables. Donc pourquoi pas. Ce qui me plaît, c'est que l'ensemble des médias se mettent à se dire qu'ils ont une place dans ce grand débat national. Et l'idée, dans cette émission, l'idée c'est de sélectionner sept idées qui vont être transmises au gouvernement. J'ai vu que Jean-Jacques Bourdin faisait pareil avec une trentaine de projets de loi qui devraient sortir des débats sur RMC. Voilà, je trouve que cette idée qu'on prend le débat au sérieux, qu'on fait venir des gens, pas seulement pour faire du show, il faut bien faire un peu de show quand même dans les médias. Alors Marlène Schiappa, ça aidera un peu à faire du show. Mais en même temps, l'idée, c'est qu'on va débattre
mais
de questions...
Mais ça ne désacralise pas la parole politique
hein. Je pense que c'est...
Mais la parole politique, elle n'est pas sacralisée, elle est aujourd'hui honnie. Il vaut mieux, au contraire, que des gens la rendent accessible.
Non mais j'allais rebondir justement là-dessus. La désacralisation, c'est fait, je pense. La case, elle est cochée. On est dans autre chose, et depuis maintenant assez longtemps. Donc il faut descendre du piédestal totalement et se mettre au niveau des gens, au sens propre du terme, positif du terme pour discuter avec eux.
Je constate que les trois hommes sont partisans de la participation de Marlène Schiappa et que c'est la seule femme, malheureusement il n'y en a pas assez ici, qui est contre.
Je n'ai pas dit que j'étais contre, j'ai dit que le gouvernement était trop présent. Non, je redis exactement ce que j'ai dit, que le gouvernement était trop présent dans cette affaire.
Elle est au gouvernement.
Oui, et que le gouvernement, l'exécutif et le président de la République sont trop présents dans cette affaire et que j'aurais préféré que le débat prenne d'abord sa propre vie avant que le gouvernement en tire les conclusions.
Ça, c'est une vraie objection.
Mais je la répète parce que...
C'est une objection extrêmement intelligente.
Allez, objection retenue, Cyril Hanouna. Une précision, Roland Kayrol.
Je vous adore, cher Alain, je vous adore.
Une précision, Roland Kayrol, on avait raison tous les deux. Enfin, plutôt, d'abord plus moi que vous, mais donc... Puisqu'en fait, Cyril Hanouna a appelé Macron président pour lui, c'était son anniversaire. C'est dans ce sens-là. Mais en revanche, Macron, candidat, a souhaité bon anniversaire à Cyril Hanouna pour son émission, mais à ce moment-là, il n'était pas encore à l'Élysée.
Oui, d'accord.
Voilà. Donc, voilà les précisions. Autant être précis.
Les deux raisons, c'est ça.
Voilà, mais après moi, plus que vous. Allez, la loi anti-casseur est-elle une loi anti-manif ? On en débat dans un instant.
RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde avec Marc-Olivier Fogiel.
Avec Roland Kayrol, Virginie Leguet, Gaspard Ganzer et Alain Duhamel. Face aux violences des manifestations des Gilets jaunes, Édouard Philippe l'avait promis, la loi anti-casseur va arriver à l'Assemblée dans quelques jours. Cet après-midi, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a estimé qu'une centaine d'individus étaient susceptibles d'être visés par des interdictions de manifester. Il rappelait que le dispositif était proche de celui qui permet de gérer les hooligans dans les stades. L'opposition dénonce une restriction du droit de manifester, même chez certains députés En Marche. Satique, cette loi anti-casseur, dangereuse, liberticide ou pas, sur les réseaux sociaux, Benoît.
C'est cela, hein. Dictature ou fin du laxisme, on s'écharpe. La sénatrice Esther Benbassa lâche que la loi Retailleau anti-casseurs reprise par En Marche n'a pas sa place dans notre société. Elle légitime l'oppression des manifestants et porte gravement atteinte à la liberté constitutionnelle de manifestation. Michel lui rétorque qu'accessoirement, cette loi permet de poursuivre en justice les décérébrés qui ont mis le feu à ma voiture, de rien. Ah bah oui, j'avoue, qu'est-ce qu'une liberté fondamentale à côté de ta Clio 4, finalement, grince-mot. Pour le député insoumis Éric Coquerel, on a un glissement de plus en plus rapide vers un régime autoritaire, voilà la réalité. Mais Eric répond que contre les casseurs, il faut aucune tolérance, ils détruisent ce que le contribuable devra payer, cette loi doit être votée. Oui, empêcher les gens de tout détruire sur leur passage, c'est pas de la dictature, confirme Marie-Jo. Vous ne comprenez pas qu'il n'y aura pas d'ordre sans justice, ça explique Hack, et que cette dérive autoritaire est celle d'un pouvoir qui admet sa fragilité, sa faiblesse, un colosse au pied d'argile. Bertrand s'inquiète surtout qu'on transfère des pouvoirs du juge au préfet. Un préfet n'est pas apte à rendre un jugement, dit-il, ça va être un carnage si le Rassemblement National arrive au pouvoir, toutes les lois sont déjà là. Bientôt un couvre-feu, soupire Diego. La plus remontée, c'est la Ligue des droits de l'homme qui écrit pour finir. La loi anti-casseurs, c'est la possibilité de sanctionner de manière collective des individus. C'est une police de la pensée, une police politique.
Alain Duhamel, cette loi anti-casseurs, elle vous inquiète ?
Elle ne m'enchante pas, pour être honnête.
Elle vous enchante pas.
Non, non. Vous êtes peut-être déçu, mais non, elle m'enchante pas.
Moi, je décide de rien.
Je trouve que, d'abord, c'est vraiment typiquement une loi de circonstance, hein, comme c'est une mauvaise habitude qu'on a sous des présidents précédents. Bon. Ensuite, parce qu'il y a dans les dispositions qui sont prévues, il y en a qui, en tout cas, peuvent être appliquées de façon abusive. Par exemple, quand on détermine des endroits qu'on a interdit d'accès et suffisamment vastes, bon, ça peut être... Réellement, ça peut être... Ça empêche la réalité du droit de manifester. Donc, je trouve que c'est trop une loi de circonstance, que c'est trop une loi... présenté à l'origine de façon assez différente de l'inspiration d'Emmanuel Macron pendant sa campagne sur ce genre de sujet.
En attendant, il lui arrivait 2-3 bricoles. Hein.
Bon, alors je reconnais que, et c'est évidemment pour ça que c'est fait, que face à ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes à plusieurs reprises, pas avec les Gilets jaunes, avec des Gilets jaunes à plusieurs reprises, il y a une attente dans l'opinion qu'on a mesurée d'ailleurs de mesures, disons en simplifiant, répressives. Mais je trouve que c'est pas une raison, et donc pour répondre clairement à votre question, ça n'est pas une loi qui me plaît.
Et vous, Virginie ?
Oui, on a vu les casseurs dans les manifestations des jeux, mais parfois arriver en fin de manifestation, on les a beaucoup vus et on a entendu les syndicats de policiers réclamer des vrais moyens pour les empêcher de revenir inlassablement, et notamment ce fameux fichier qui est contenu dans la loi. Et moi, je m'interroge sur la disqualification dont fait l'objet ce texte. Est-ce que c'est parce qu'il vient des sénateurs LR et qu'il a été voté en première lecture à l'Assemblée, au Sénat, que tout d'un coup toute la gauche s'émeut de ce texte qui serait liberticide ?
Pas que la gauche, hein, vous avez entendu tout à l'heure des députés de La République En Marche s'en émouvoir également.
La gauche, la majorité, voilà.
Mais c'est plutôt les députés En Marche venus de la gauche.
Oui, oui.
Exactement, c'est ça. Est-ce que c'est ça qui le disqualifie, ou est-ce que ce texte est réellement une atteinte ? Si j'ai bien compris, il se calque assez sur ce qu'on fait pour les hooligans. Oui. Il utilise le même genre de moyens et de méthodes répressives, et ça ne concernerait, comme je crois vous l'avez dit, qu'une centaine de personnes.
C'est ce que dit Christophe Castaner, en
Mais
tout cas.
Moi, je me souviens d'avoir entendu les syndicats de policiers, et je crois presque tous, dire on ne peut pas travailler si on n'a pas d'outils, et on ne peut pas les empêcher de revenir tant qu'on n'aura pas réellement d'outils. Donc je m'en tiens à ce constat et je m'en tiens à cette loi, bon, qui est ce qu'elle est, je ne sais pas si elle est liberticide, mais je ne fais pas de procès d'intention avant même que les députés aient pu l'amender, parce que c'est ce qui va se passer lorsqu'elle va arriver en deuxième lecture à l'Assemblée nationale.
Oui, moi je... Ce qui m'inquiète, c'est un peu ce que vient de dire Virginie. On est arrivé à une telle habitude dans toutes les lois précédentes, déjà à cause du terrorisme, maintenant à cause des violences dans les manifs des Gilets jaunes, on est arrivé à un tel transfert des pouvoirs du juge à ceux de l'État, de l'exécutif et des préfets, que dès l'instant que quelqu'un fronce le sourcil sur ces lois qui nous font nous écarter de nos habitudes juridiques ancrées dans la démocratie française, on tombe sur des gens qui ne comprennent même pas pourquoi on s'émeut. je comprends qu'ils nous disent, mais ça fait rien, il faut passer dessus nos traditions juridiques et changer les choses parce que c'est trop grave. Ça, je comprends que des gens disent ça, qu'ils soient tout sécuritaires, comme on dit. Oui. Mais qu'on ait des gens de très bonne foi, comme ma copine journaliste qui vient de dire...
Non, mais j'ai pas dit que ça ne me
va
pas.
Je ne comprends pas, et je ne sais pas si c'est liberticide ou pas, ça ne me va pas.
Je dis qu'on n'est pas dans la version définitive du texte, qu'il va être amendé à l'Assemblée nationale.
Nous parlons de la version qui va être présentée aux députés. Oui, on a le droit d'en parler avant qu'il ait voté, que je sache.
Non, mais avant même qu'elle soit amendée, parce qu'elle va l'être.
Ça peut donner quelques idées aux députés.
On peut difficilement parler de la loi quand elle sera amendée, puisqu'on ne sait pas ce qui sera
par définition.
Non, mais si vous comprenez bien ce que dit Virginie, c'est pas la peine de s'émouvoir aujourd'hui. Peut-être qu'elle sera beaucoup arrondie.
En deux mots, sur la plupart des mesures, elles existent déjà dans la loi. Par exemple, l'internaute qui dit à Benoît, si j'ose dire, que sa bagnole, celui qui met le feu à sa bagnole, pourra être condamné, c'est déjà le cas. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà dans les lois. Ce qui s'ajoute, en effet, c'est ces nouveaux pouvoirs du préfet à qui on transfère des prérogatives du juge. Moi, ça m'inquiète toujours quand on fait ça. C'est cette histoire de périmètre et d'interdiction de manifester et d'un fichier de manifestants qui pourra être donné aux policiers pour être contrôlé dans ce périmètre. Tout ça me paraît pas très sain.
Et vous, Gaspard, je vais être plus radical, parce que moi je trouve que c'est vraiment une faute morale et politique.
Faute morale.
Oui, parce que.
Ah bah alors vous allez développer après la pub.
On refait le monde dans RTL Soir avec Marc-Olivier Fogiel.
Et donc avec Gaspard Ganzer, notamment cette loi anti-cancer, une faute morale, faute politique.
Oui, ça m'a vraiment choqué, parce que je trouve que c'est vraiment le réflexe pavlovien d'un gouvernement aux abois de vouloir retourner devant le Parlement quand il n'a pas su gérer une situation du point de vue de l'ordre public. Si les policiers ont été parfois débordés, c'est pas parce qu'ils n'avaient pas les dispositifs juridiques adaptés, c'est parce qu'ils n'avaient pas su, enfin je ne sais pas qui d'ailleurs, les autorités politiques ou administratives n'avaient pas su anticiper les choses. Et si au final, la conséquence qu'on en tire, c'est de réduire les libertés, de réduire notre corpus de libertés fondamentales, je trouve ça évidemment très grave. On pourrait dire que c'est anecdotique, mais faire des lois qui réduisent la liberté pour une centaine de personnes, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est grave. Quand on fait reculer la démocratie, c'est une défaite pour l'ensemble de notre pays. Et en plus, je pense qu'ils sous-estiment quelque chose, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a un débat qui monte sur les réseaux sociaux et sur le web en général, c'est celui sur les violences policières. Si on veut... accentuer
vous avez
encore...
vu d'ailleurs que ceux qui vont tirer, une précision, ceux qui vont tirer avec la fameuse arme qu'on peut plus appeler flashball, mais moi j'appelle comme ça parce que je sais plus comment on l'appelle, vont avoir des caméras.
Et alors ça, pour le coup, je trouve ça très bien. C'est-à-dire que tout ce qui peut renforcer le contrôle, la transparence sur l'usage de ces armes va dans le bon sens. Mais si on veut accentuer cette confrontation entre d'un côté un État qui aurait de plus en plus de pouvoir dans la répression et de l'autre côté des gens qui se perçoivent comme les victimes des forces de l'ordre, là personne ne gagnera alors qu'on doit chercher à réconcilier les gens, au contraire.
Sauf que je n'en ai pas parlé, mais juste que vous avez entendu Castaner dire, ce n'est pas une loi anti-gilets jaunes, pas une loi anti-manifestation, mais une loi contre les casseurs.
Mais enfin, on dit toujours ça, c'est une loi vraiment, comme le disait Alain Duhamel tout à l'heure, c'est vraiment une loi de circonstance. Si on est obligé de faire des lois, de mobiliser le Parlement pendant plusieurs semaines, parce que ce sera pendant plusieurs semaines pour toucher 100 personnes, c'est que vraiment il y a un problème dans cette République.
Ce n'est pas une loi de circonstance, il vous répond.
mais de bon sens.
C'est ce qu'ils ont tous dit, d'Alain Perfit à François Hollande. Et en passant par Marcelin.
J'en reste quoi, honnêtement.
Alain Duhamel, vous voulez dire ?
Oui, non, ce que je voulais dire, c'est parce que Gaspard avait utilisé l'expression « un gouvernement aux abois ». Est-ce qu'il est aux abois ?
Non, sur cette question, dans le rapport au débat, il s'est relancé politiquement, etc. Mais je pense que sur la question de l'ordre public, honnêtement, ils ont été dépassés. On peut aujourd'hui reconnaître qu'ils sont repartis de l'avant avec cette initiative politique. Je les ai quand même honnêtement pas trouvés géniaux dans le maintien de l'ordre au cours des 10 semaines que ça a concerné. Je pense pas que ça ait été parfaitement géré.
Ça, je suis d'accord.
Sans être un spécialiste de la question.
Et cette caméra pour le coup, bien sûr,
c'est une garantie pour les gens. Si qui utilisent une arme dangereuse sont porteurs d'une caméra qui filme tout, évidemment. C'est dissuasif.
Ça, c'est sûr.
Non, ça, c'est une très bonne chose. En espérant que, contrairement à certaines caméras de vidéosurveillance, elles s'arrêteront pas justement quand il faut. Quoi.
Oui. Vous faites allusion à quoi sur les caméras de vidéosurveillance ?
On a souvent, dans les enquêtes policières, des caméras de vidéosurveillance qui ne fonctionnent pas.
Ah oui.
Bon, de même que ça serait très bien si, comme le demandent les policiers, il y avait un allègement des procédures matérielles quand il y a des interrogatoires et que tout ça puisse être enregistré, numérisé, etc. Mmh. Mais qu'ils ne passent pas des centaines d'heures ridicules à remplir des papiers au lieu de faire leur travail.
Allez, dernier sujet dans un instant, le traité d'Aix-la-Chapelle, le traité de tous les fantasmes.
On refait le monde dans RTL Soir.
Marc-Olivier Fauchel.
Avec Virginie Leguet, Roland Quirol, Alain Duhamel, Gaspard Ganzer à 19h48. C'est signé, Emmanuel Macron et Angela Merkel ont donc apposé leur signature sur un nouveau traité de coopération entre la France et l'Allemagne. À Aix-la-Chapelle, le texte vient compléter le fameux traité de l'Elysée signé en 1963. Face aux fake news, Emmanuel Macron a dénoncé les mensonges de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Ceux qui oublient la valeur de la réconciliation franco-allemande se rendent complices de crimes du passé. Ceux qui caricaturent ou répandent le mensonge font mal au peuple, a tensé le président. Alors ces traités d'Aix-la-Chapelle, il faut arrêter avec les délires. Est-ce que c'est une avancée ou pas, finalement? On débriefe sur les réseaux sociaux, Benoît.
Ça circule d'énormes intox depuis deux semaines sur le sujet. Rendez-vous compte, Marco, la France vend l'Alsace-Lorraine à l'Allemagne. Polémique lancée par l'eurodéputé souverainiste Bernard Monod, qui a posté une vidéo alarmiste et fausse, nous dit Samuel Laurent, avant de la supprimer sous les critiques, tout en se vantant d'avoir lancé le débat. La méthode Bernard Monod, tout le monde n'était pas inquiet. Hein. Michel lâchait même que vendre l'Alsace-Lorraine aux Allemands, franchement, ce serait une super affaire. D'habitude, on leur file gratos. Plus sérieusement, ce nouveau front dans la guerre mené par les adversaires de Macron ressemble en de nombreux points à celui ouvert un mois plus tôt. Rappelez-vous, le très fantasmé pacte de Marrakech sur l'immigration qui était déjà supposé vendre la France à l'ONU, nous explique Le Monde. Et enfin, le 15 janvier, c'est le site Context qui a publié le vrai texte du traité. Aucune des craintes attisées par l'extrême droite ne semble justifiée. Tweet d'Emmanuel Macron, vous l'avez lu. Toutes les initiatives pacifiques qui facilitent la coopération entre les peuples est excellente. La France et l'Allemagne ne peuvent que se rapprocher, applaudit Bertrand. Olivier Gohin, prof de droit à Sass, insiste lui dans le Figaro Vox si ce traité porte vraiment atteinte à la souveraineté nationale et pose nombre de questions d'ordre constitutionnel. Et on n'a rien inventé, s'écrit Wilfried. Ils veulent vraiment qu'on cède notre siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Quel État souverain accepterait ça, soupire Véronique. C'est une vision très fédéraliste, c'est sûr, conclut Dominique.
Virginie Leguet, ce traité, vous comprenez qu'il génère autant de fantasmes de la part de l'extrême droite et de l'extrême gauche ?
Ce que je vois surtout, c'est que à travers ce traité et avant, à travers le pacte de Marrakech, l'extrême droite agite tous les fantasmes qu'elle veut agiter et installe le débat qui va avoir lieu à l'occasion des élections européennes avec Emmanuel Macron. Et ce que je comprends, c'est qu'Emmanuel Macron lui aussi installe ce débat, parce que finalement, qu'est-ce qu'on entend ? On entend la position du Rassemblement National et la réponse d'Emmanuel Macron. Et je trouve que ce jeu-là est dangereux parce que ça exclut l'idée que il puisse y avoir un débat ouvert et que Emmanuel Macron, à force de jouer avec le feu, risque de voir la créature Marine Le Pen sortir de sa boîte et le dépasser. Et
vous avez l'impression qu'à travers ce traité, il joue avec le feu ?
Oui, non. À travers le dialogue qu'il ne cesse d'entretenir avec Marine Le Pen et qu'il ne cesse de réactiver et qu'elle ne cesse de réactiver avec lui. Enfin, ils sont deux pour faire ce jeu-là. Je trouve que ce jeu est dangereux et prive l'opinion publique d'autres visions un peu complémentaires. Je ne dis pas que la vision d'Emmanuel Macron sur l'Europe est irréaliste. Elle est intelligente, elle est productive, elle est moderne. Mais Emmanuel Macron a besoin tout le temps d'avoir en face de lui le Rassemblement National.
En l'occurrence, il a en face de lui le Rassemblement
mais
National.
Mais parce que c'est un jeu qui se joue. C'est un jeu qui joue ensemble.
En l'occurrence, il a répondu à des mensonges éhontés.
L'idée de dire la France.
Il a probablement raison, mais bien sûr.
Va partager le feu nucléaire.
Mais bien sûr.
Je ne parle même pas de l'Alsace-Lorraine, tellement c'est bête. Bon, je veux dire, il a répondu.
Je suis d'accord avec vous aussi que
il a choisi son adversaire.
Voilà, et c'est un jeu que je trouve malsain.
Et moi, je trouve ça dangereux au plan français, mais je trouve ça dangereux aussi au plan européen. Parce qu'au plan européen, opposer l'extrême droite à la France et par hypothèse l'Allemagne, je trouve que c'est une très mauvaise chose. Mais ce que je voudrais dire au passage, rassurez-vous en une phrase, c'est que ce traité ne mérite pas un tel traitement étant donné qu'il n'y a rien dedans.
Oui, mais peu importe pour le Rassemblement National. Non, mais pour le Rassemblement National, ça n'a pas grave.
Le principal,
c'est d'agiter la mouletta.
Oui, mais je trouve que ce traité est extraordinairement décevant.
Alors, on va y revenir sur le fond du traité, sur ce rapport Macron-FN. Enfin, oui, RN, parce maintenant,
que,
d'ailleurs.
En vérité, ce qu'on voit mis en scène aujourd'hui, c'est plutôt Macron-Merkel, plutôt qu'autre chose. Et ça, je trouve que dans une perspective d'élection européenne, pour Macron, c'est plutôt bienvenu. Et je pense que pour la chancelière Merkel aussi. Quant au Rassemblement national, c'est tellement grotesque que j'espère quand même qu'il y a quelques personnes qui vont se dire que de temps en temps, trop c'est trop.
Oui, mais pas toutes.
Vous comprenez, quand elle nous dit qu'il y a des menaces sur la souveraineté française et des transferts de souveraineté, lisez le texte. Non seulement il n'y en a pas, mais chaque fois qu'il y a l'idée, parce que c'est un traité de bonnes intentions, il n'y a rien de concret dedans.
C'est du lubrifiant.
Dans les bonnes intentions qu'on affirme de temps en temps, vous me direz, vous des bonnes intentions que des mauvaises. Et ils disent chaque fois, en prenant garde que tout soit toujours conforme au droit national de chacun de nos pays. Donc ils y font extrêmement attention pour qu'on ne puisse pas avoir une interprétation de ce genre. Moyennant quoi, Mme Le Pen nous dit qu'elle va saisir le Conseil constitutionnel. Je peux lui dire à l'avance qu'elle va prendre une claque. Mais ça n'a pas d'importance. C'est un geste. Moi, je me souviens 3 ou 4 fois quand j'ai dit ou écrit des choses qui ne lui plaisaient pas, Jean-Marie Le Pen, le papa, il a expliqué qu'il allait... immédiatement porter plainte. Je n'ai jamais vu le moindre papier bleu arriver chez moi. On dit ça devant les micros pour faire bien, et on pense qu'il en restera quelque chose. Je pense que cette façon d'agir les classe aussi.
Mais c'est vrai. Mais ce qui va rester dans l'esprit des gens, c'est qu'elle va saisir le Conseil constitutionnel. Et les gens risquent d'oublier le résultat.
Je pense que malheureusement, cette séquence est plutôt favorable au Rassemblement national qui marque des points et qui remonte sur le cheval, alors que franchement, on pensait qu'on en avait fini avec la famille Le Pen en 2017. C'était totalement décrédibilisé. Enfin, je dis évidemment, sauf les éminents politologues comme toi, comme vous, Roland Carole. Et Alain Duhamel et Virginie Lugas aussi. Mais non, mais le. Non, mais c'est vrai que ils ont fait leur comeback et ils sont bien là sur toutes les radios, sur toutes les antennes. Ils arrivent sans baisser la tête à argumenter des choses totalement absurdes, fantasmagoriques. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui peuvent y croire. Pourquoi aussi? Parce que pour faire le lien avec ce que disait Alain Duhamel tout à l'heure, c'est parce qu'en fait, à force de signer des textes totalement vides, sans aucun contenu, on laisse la porte grande ouverte à toutes les interprétations
et
possibles.
Et au fantasme.
Et au fantasme. Donc il y a une responsabilité.
Parce que vous partagez donc l'avis d'Alain sur le texte.
Il n'y a rien. Il n'y a aucune norme contraignante. C'est du droit mou, de la soft law. Évidemment, comme c'est vide, eh bien, c'est très facile pour un adversaire de mauvaise foi de s'engouffrer dans la brèche pour dire et livrer sa propre interprétation.
Et d'ailleurs, comme c'est plusieurs à l'extrême droite ont dit. Ça n'est pas écrit, donc c'est qu'ils sont en train de le préparer en secret.
Donc c'est sous-entendu.
Puisque ça n'est pas écrit, c'est qu'ils le cachent, ils le camoufle.
Je vois bien, mais ça c'est terrible, c'est l'époque qui permet tous ces fantasmes-là, pour le coup.
Je ne veux pas dire ça, parce que si c'est moi qui le dis, vous direz, oui, mais vous êtes vieux.
Oui, mais moi, ça y est, je suis devenu vieux, Alain, vous le savez bien.
Non, mais cela dit quand même, voir un député de la République enregistrer une vidéo de ce genre, moi je l'ai vu avant qu'elle soit retirée, c'est absolument insensé. Et voir une présidente d'un parti qui a fait un deuxième tour dans une présidentielle, qui va être l'une des deux arrivées en tête dans une élection européenne en France, je trouve que ça dépasse la raison, ça dépasse l'entendement.
Mais je pense que la raison n'est plus le problème. Ils sont totalement au-delà.
Ils sont dans une surenchère.
Les électeurs peuvent y faire attention.
Oui, je crois qu'ils se disent au Rassemblement national, ils se disent la question n'est absolument pas de savoir si c'est vrai ou si c'est faux, c'est de savoir si ce qu'on dit nous renforce ou pas.
Mais en l'occurrence, ça les renforce.
Mais bien sûr.
Oui, parce qu'il y a dans l'opinion publique une défiance vis-à-vis de l'Europe.
Sauf que Roland a l'air d'être un peu plus dubitatif.
Parce que Roland, il croit à la raison, il croit à l'intelligence.
Roland croit depuis toujours que chaque Français est un petit Descartes et il se trompe.
Et que les Français vont aller lire le traité.
Depuis
le conflit des Gilets jaunes, depuis quelques semaines, les intentions de vote pour le Rassemblement national ont beaucoup perdu. Donc je me dis, après tout, les Gilets jaunes vont faire des listes.
Voilà, c'est ça.
Donc, attention, ne passons pas notre temps à croire aussi qu'il y a une espèce de formidable capacité du Rassemblement national à toujours monter. Il a déjà baissé à la dernière présidentielle. Ça pourrait lui réarriver aussi.
On verra ça, on suivra ça évidemment sur RTL. Merci à tous les quatre d'avoir refait le monde ce soir. Dans un instant, le flash de 20h. Et ensuite, c'est vous, Jacques Pradel. Bonsoir.
Mais oui, bonsoir, Marc-Olivier.
Et au sommaire donc de l'heure des crimes ce soir.
Ce soir, une affaire toujours non élucidée. 17 ans après les faits, l'assassinat en novembre 2001 d'un homme abattu devant sa maison alors qu'il s'apprêtait à remplacer un pneu de sa voiture. Les enquêteurs et la veuve de la victime étaient persuadés de connaître le nom du coupable. Eh bien, celui-ci vient d'être définitivement blanchi par la justice. Un assassin court toujours.
On vous écoute après le flash, à tout de suite.